Le testament d'un excentrique, deuxième partie, chapitre 7. À la maison de South Halsted Street. Le 1er juin, la porte de la maison de South Halsted Street, numéro 3997, à Chicago, s'ouvrait dès 8 heures du matin devant un jeune homme qui portait sur le dos son attirail de peintre et que suivait un jeune nègre, sa valise à la main. Quelle fut la surprise et aussi la joie de Madame Réal lorsque son cher fils entra dans sa chambre et qu'elle put le serrer entre ses bras. « Toi, Max, comment, c'est toi ?»«
En personne, mère. »«
Et te voilà à Chicago au lieu d'être... »«
À Richmond !» s'écria Max Réal.
« Oui, à Richmond !»«
Rassure-toi, bonne mère, j'ai le temps de me rendre à Richmond. » Et comme Chicago se trouvait sur mon itinéraire, j'avais bien le droit, je pense, de m'y arrêter quelques jours et de les passer avec toi.
Mais, cher enfant, tu risques de manquer.
Eh bien, je n'aurais toujours pas manqué de t'embrasser en route, chère mère. Songe donc, depuis 2 longues semaines que je ne t'ai vue.
Ah, Max, qu'il me tarde que cette partie soit terminée.
Et à moi ?
À ton profit, s'entend.
Sois sans inquiétude. C'est comme si je possédais déjà le mot du coffre-fort de ce digne hyperbone,
répondit en riant Max Réal.
Enfin, je suis bien heureuse de te voir, mon cher fils, bien heureuse.
Max Réal était à Cheyenne dans le Wyoming lorsque le 29 mai, au retour de son excursion à travers le parc national du Yellowstone, il reçut la dépêche relative à son 3e tirage. Point de 8 par 5 et 3. Or, la 8e case, après la 28e occupée par le Wyoming, était attribuée à l'Illinois. Il fallut donc doubler ce point de 8, et le nombre 16 allait conduire le jeune peintre à la 44e case, Virginie, Richmond City. De plus, entre Chicago et Richmond, fonctionne un réseau de voies ferrées permettant de franchir en 24 heures la distance qui sépare les deux métropoles. Donc, puisque Max Réal disposait d'une quinzaine de jours, du 29 mai au 12 juin, il pouvait, comme on dit, en prendre à son aise, et de se reposer une semaine dans la maison maternelle lui parut tout indiqué. Parti de Cheyenne dès l'après-midi, il était arrivé 48 heures après à Omaha, puis le lendemain à Chicago, bien portant. Bien portant aussi l'esclavagiste Tommy, toujours aussi embarrassé de sa situation de libre citoyen de la libre Amérique qu'un pauvre diable peut l'être de vêtements trop larges pour lui. Pendant son séjour, Max Réal se proposait de terminer 2 des toiles qu'il avait ébauchées en route. L'une, un site de Kansas River, près de Fort Riley, l'autre, une vue des cascades du Fire Hall dans le parc national. Assuré de vendre ces 2 tableaux un bon prix, cela lui servirait à s'acquitter si la mauvaise fortune le condamnait à payer plusieurs primes au cours de ses voyages. Madame Réal, enchantée de garder son cher fils pendant quelques jours, accepta toutes ces raisons et pressa encore une fois Max sur son cœur. On causa, on se raconta les choses, on fit un de ces bons déjeuners qui ont tant de charme entre mère et fils, et cela remit le jeune peintre des restaurations du Kansas et du Wyoming. Bien qu'il eût plusieurs fois écrit à Madame Réal, il dut reprendre le récit de son voyage par le début, en narrer les divers incidents, aventures des milliers de chevaux errant dans les plaines du Kansas, rencontre des époux Tidbury à Cheyenne. C'est alors que sa mère lui apprit les lamentables tribulations de ce couple à Calais de l'état du Maine. Comment, à propos de la loi sur les boissons alcooliques, une contravention avait été relevée à l'égard de M. Tidbury, et quelles en furent les conséquences pécuniaires. Et maintenant, demanda Max Réal. Où en est la partie ? Pour la lui mieux faire connaître, Madame Réal le conduisit à sa chambre et lui montra une carte étalée sur une table
où étaient piqués de petits pavillons de différentes couleurs. Pendant qu'il courait le pays, Max Réal s'était peu occupé de ses partenaires, ne lisant guère les journaux des hôtels ou des gares. Mais rien qu'à examiner cette carte, dès qu'il connaîtrait les couleurs de chacun des sept, il serait au courant. D'ailleurs, sa mère avait suivi les péripéties du match Hyperbonne depuis le début. « Et d'abord, demanda-t-il, quel est ce pavillon bleu qui est en tête ?»«
Celui de Tom Quebb, mon fils, que le tirage d'hier, 31 mai, envoie à la 47e case, État de Pennsylvanie. »
Hé, mère, voilà qui doit réjouir son entraîneur, John Milner. Quant à ce stupide boxeur, ce fabricant de coups de poing, s'il y comprend quelque chose, je veux que l'ocre se change en vermillon sur ma palette.
Et ce pavillon rouge?
Le pavillon XKZ, planté sur la 46e case, district de Columbia.
En effet, grâce au point de 10 redoublé, soit 20, l'homme masqué avait fait un saut de 20 cases, de Milwaukee du Wisconsin à Washington, la capitale des États-Unis d'Amérique. Déplacement facile et rapide dans cette partie du territoire où le réseau des chemins de fer est si serré.
« On ne soupçonne pas qui il est, cet inconnu ?» demanda Max Réal.
« En aucune façon, mon cher enfant. »
« Je suis sûre, mère, qu'il doit faire bonne figure dans les agences et avoir de gros parieurs. »«
Oui, beaucoup de gens croient à ses chances. Et à moi-même, il inspire certaines craintes. »«
Voilà ce que c'est que d'être un personnage mystérieux, » déclara Max Réal.
Actuellement, cet XKZ se trouvait-il à Chicago ou était-il déjà parti pour le district de Columbia ? Nul n'aurait pu répondre à cette question. Et cependant, Washington, si ce n'est qu'un centre administratif, sans industrie, sans commerce, mérite bien que les visiteurs lui consacrent quelques jours. Placé dans une situation agréable, en amont du confluent du Potomac et de l'Anacostia, en communication avec l'océan par la baie de Chesapeake, cette capitale, même en dehors des époques où la Réunion du Congrès double sa population, ne compte pas moins de 250 000 âmes. Que le district fédéral soit si peu étendu, qu'il occupe le dernier rang parmi les États de la République américaine, d'accord. Mais la cité n'est pas moins digne de sa haute destination. Commencée par la construction de ces grands édifices sur ce territoire de Tuscarora et des Monacans, elle a déjà englobé quelques agglomérations voisines. Le septième partenaire, s'il ne le connaissait pas, pourrait admirer l'aspect architectural de son capitole sur la colline, dont les pentes s'abaissent vers le Potomac. Les trois corps de bâtiments affectés au Sénat, à la Chambre des députés, au Congrès, où se concentre la représentation nationale. Sa haute coupole de fer surmontée de la statue de l'Amérique, ses péristyles, sa double colonnade, les bas-reliefs qui le décorent et les statues qui le peuplent. S'il ne connaissait pas la Maison-Blanche, il choisirait, parmi les boulevards qui rayonnent autour du Capitole, celui de Pennsylvanie et irait tout droit à la résidence du président. Modeste et démocratique demeure, élevé entre les bâtiments du Trésor et les différents ministères. S'il ne connaissait pas le monument de Washington, cet obélisque de marbre haut de 157 pieds, il l'apercevrait de loin au milieu des jardins en bordure du Potomac. S'il ne connaissait pas la direction des postes, il irait admirer un édifice en marbre blanc, de style antique, qui est le plus beau de la luxueuse cité. Et que d'heures agréables et instructives à passer dans les riches galeries d'histoire naturelle et d'ethnographie de la célèbre Smithsonian Institution, installée au Patent Office. Et les musées, où abondent statues, tableaux, bronzes. Et l'arsenal, où s'élève une colonne en l'honneur de marins américains morts dans un combat naval devant Alger.
et sur laquelle se lit cette inscription vengeresse « Mutilé par les Anglais ». Maintenant, la capitale des États-Unis jouit d'un climat salubre. Les eaux du Potomac l'arrosent en abondance. Ses 50 lieues de rues, ses jardins, ses parcs sont ombragés par plus de 60 000 arbres, tels ceux qui entourent l'hôtel des Invalides et l'université de Howard, tels le Droit Parc, tels le cimetière national aux verdoyantes frondaisons, dans lequel le mausolée de William J. Hyperbone eût été aussi agréablement placé que dans celui d'Oxwood à Chicago. Enfin, si XKZ avait cru devoir donner une large part de son temps à la capitale de la Confédération, il ne quitterait sans doute pas le district avant d'avoir accompli le patriotique pèlerinage de Mount Vernon, à 4 lieues de là, où une association de dames entretient la maison dans laquelle Washington passa une partie de son existence et mourut en 1799. En tout cas, si le partenaire de la dernière heure était déjà arrivé dans la capitale de l'Union, aucun journal n'y avait signalé sa présence. « Et ce pavillon jaune ?» demanda Max Réal en montrant celui qui était planté au milieu de la 38e case. « C'est le pavillon de l'Issiwag, mon cher enfant. » « Oui, ce pavillon flottait toujours sur la case du Kentucky. Car à cette date du 1er juin, le funeste coup qui envoyait l'Issiwag dans la prison du Missouri n'avait pas encore été tiré. « Ah, la charmante jeune fille !» s'écria Max Réal. « Je la vois, toute gênée, toute rougissante aux obsèques de William Hyperbone, puis sur l'estrade de l'auditorium. À coup sûr, si je l'eusse rencontrée en route, je lui aurais renouvelé mes vœux pour son succès final. « Et le tien, Max ?»« Le mien aussi, mère. » Tous les deux gagnant la partie. On partagerait. Hein? Serait-ce assez réussi? Est-ce que cela se peut? Non, cela ne se peut pas. Mais il arrive en ce bas monde des choses si extraordinaires. Tu sais, Max, on a bien cru que l'Issiwag n'aurait pas pu partir. En effet, la pauvre fille a été malade et il y en avait plus d'un parmi les 7 qui s'en réjouissaient. Oh, pas moi, mère. Pas moi. Heureusement, elle avait une amie qui l'a bien soignée et bien guérie, cette Jovita Foley, aussi résolue dans son genre que le Commodore Hurricane. Et quand se fera le prochain tirage pour l'Issiwag? Dans 5 jours, le 6 juin. Espérons que ma jolie partenaire saura éviter les dangers de la route. Le labyrinthe du Nebraska, la prison du Missouri, la Death Valley californienne. Bonne chance, oui, je la lui souhaite et de tout cœur. Décidément, Max Réal pensait quelquefois à l'Issiwag, souvent même, et sans doute trop souvent, se dit peut-être Madame Réal, un peu surprise de la chaleur qu'il mettait à en parler. « Et tu ne demandes pas, Max, quel est ce pavillon vert ?» reprit-elle. « Celui qui se déploie au-dessus de la 22e case, chère mère ?»« C'est le pavillon de M. Kimball. »« Un brave et aimable garçon, ce journaliste !» déclara Max Réal. « Et qui, d'après ce que j'ai entendu dire, profite de l'occasion pour voir du pays ?»« En effet, mon enfant !» et la Tribune publie ses chroniques presque chaque jour. Eh bien, mère, ses lecteurs doivent être satisfaits, et s'il va jusqu'au fond de l'Oregon ou du Washington, il leur racontera de curieuses choses. Mais il est bien en retard. Cela n'importe guère au jeu que nous jouons, répondit Max Réal, et un coup heureux vous met vite en avance. Tu as raison, mon fils. « Maintenant, quel est ce pavillon qui semble tout triste d'être arboré sur la 4e case ?»« Celui d'Herman Tilbury. »« Ah, l'horrible bonhomme !» s'écria Max Réal. « Qu'il doit enrager d'être dernier, et bon dernier !»« Il est à plaindre, Max, réellement à plaindre, car il n'a fait que 4 pas en 2 coups de dés. Et après avoir été au fond du Maine, il a dû repartir pour l'Utah. À cette date du 1er juin, on ne pouvait encore savoir que le couple Tilbury avait été dépouillé de tout ce qu'il possédait, après son arrivée à Great Salt Lake City. « Et pourtant je ne le plaindrai pas, » déclara Max Réal. « Non, ce couple de ladres n'est point intéressant, et je regrette qu'il n'ait pas eu quelque forte prime à tirer de son sac. Mais n'oublie pas qu'il a dû verser une amende à Calais, » fit observer Madame Réal. « Tant mieux, et il ne l'aura pas volé, ce tondeur de chrétien. Aussi, ce que je lui souhaite, c'est d'amener encore le minimum de points. 1 et 1. Tiens, ça le conduirait au Niagara, et le péage du pont lui coûterait 1 000 $.
Tu es cruel pour ces Tilbury, Max.
D'abominables gens, mère, qui se sont enrichis par l'usure et ne méritent aucune pitié. Il ne manquerait plus que le sort les fît hériter de ce généreux hyperbone.
Tout est possible, répondit Madame Réal.
Mais dis-moi, je n'aperçois pas le pavillon du fameux Hodge Hurricane.
Le pavillon orangé?
Non, il ne flotte plus nulle part, depuis que la mauvaise fortune a envoyé le Commodore mettre le pied dans la vallée de la mort, d'où il va revenir à Chicago afin de recommencer la partie.
Dur pour un officier de marine d'amener son pavillon, s'écria Max Réal.
À quelle crise de colère il a dû s'abandonner! Et comme elle a dû faire trembler sa coque depuis la quille jusqu'à la pomme d'Emma.
C'est probable, Max.
Et l'X KZ, quand doit-on tirer pour lui?
Dans 9 jours.
C'est tout de même une singulière idée qu'a eu le défunt de faire le nom de ce dernier des 7. À présent, Max Réal était au courant de la situation. Après ce coup de dé qu'il expédiait en Virginie, il savait qu'il occupait le 3e rang, devancé par Tom Crabb en tête et par XKZ, pour lesquels, il est vrai, le 3e tirage n'avait pas encore été effectué. Au fond, cela ne le préoccupait guère, quoi que puisse penser Madame Réal, et même Tommy. Aussi, le temps qu'il resta à Chicago, le passa-t-il dans son atelier, où il acheva ses 2 paysages, dont la valeur devait s'accroître aux yeux d'un amateur américain, étant donné les conditions dans lesquelles ils avaient été peints. Il advint donc, en attendant son prochain départ, que Max Réal ne s'inquiéta plus du match, ni de ceux qu'il faisait courir à travers les États-Unis. Au fond, il n'y jouait un rôle que pour ne pas contrarier son excellente mère. Non moins indifférent que Lizzie Wagg, laquelle, de son côté, n'y participait que pour ne point contrarier Jovita Foley. Néanmoins, pendant son séjour, il eut nécessairement connaissance des 3 coups qui furent tirés à l'auditorium. Déplorable pour Herman Tilbury, celui du 2, puisqu'il l'obligeait à gagner la case 19e, état de la Louisiane, affecté à l'hôtellerie, où il devrait demeurer 2 coups sans jouer. Quant à celui du 4, il fut bien accueilli de Awiste Kimball, car s'il ne le conduisait qu'à la 30e case, état de Washington, il lui assurait un curieux voyage. Enfin, le 6 à 8 heures, maître Thornbrock procéda au tirage concernant Lizzie Wagg. Aussi ce matin-là, Max Réal, qui s'intéressait vivement au sort de la jeune fille, se rendit-il à l'auditorium, d'où il revint, on ne peut plus désolé. De la case 38e, état du Kentucky, Lizzie Wagg, par le point de 7 redoublé, soit 14, était envoyée à la 52e case. Là, dans cet état du Missouri, l'infortuné partenaire devrait rester incarcéré, tant qu'un autre partenaire ne serait pas venu prendre sa place. On le comprend. Ces 3 coups produisirent un effet considérable sur les marchés dans le monde des joueurs. Plus que jamais, Tom Crabb et Max Réal furent demandés. Décidément, la chance se prononçait pour eux. et le choix devenait très difficile entre ces deux favoris de la fortune. Quel chagrin ressentit Max Réal lorsque, de retour près de sa mère, il la vit planter le pavillon jaune au milieu de ce Missouri transformé en prison, de par la volonté de l'excentrique défunt. Et pour Lissy Wagg, de par la volonté du destin. Il en fut extrêmement affecté et ne le cacha point. Ce coup de la prison, comme celui du puits, était le plus funeste qui pût se produire au cours de la partie. Oui, plus grave que celui de la vallée de la mort dont Hodge Hurricane venait d'être victime. Au moins, le Commodore n'éprouvait-il qu'un retard et allait-il continuer la lutte? Et qui sait si le match hyperbone n'aurait pas pris fin avant que la prisonnière eût été délivrée? Enfin, le lendemain, 7 juin, Max Réal se prépara à quitter Chicago. Sa mère, après avoir renouvelé ses recommandations, lui fit promettre de ne point s'attarder en route. « Et pourvu, dit-elle, que la dépêche que tu vas recevoir à Richmond, mon cher fils, ne t'envoie pas au bout du monde. » « On en revient, mère, on en revient, » répondit Max. « Tandis que de la prison... Enfin, avoue que tout cela est bien ridicule. » Être exposé comme un vulgaire cheval de course à perdre d'une demi-longueur. Oui, ridicule. Mais non, mon enfant, mais non. Pars donc, et que Dieu te protège. Et c'est très sérieusement, sous l'empire d'une sincère émotion, que l'excellente dame disait ces choses. Cela va de soi. Pendant son séjour, Max Réal n'avait pu, sans grande peine, se soustraire à la visite des courtiers, des reporters, des parieurs, qui affluaient à la maison de South Alston Street. Comment s'en étonner? On le prenait à égalité avec Tom Webb. Quel honneur! Assurément, Max Réal s'était engagé vis-à-vis de sa mère à se rendre par la voie la plus directe en Virginie. Mais, pourvu qu'il fût dans la matinée du 12 à Richmond, qui l'eût blâmé de préférer dans son itinéraire à la ligne droite, la ligne brisée ou la ligne courbe? Cependant, il avait résolu de ne point sortir des États qu'il allait traverser. L'Illinois, l'Ohio, le Maryland, la Virginie occidentale, pour atteindre la Virginie et Richmond, sa métropole. Voici, du reste, la lettre que reçut Madame Réal. Lettre datée du 11 juin, 4 jours après le départ, et qui lui faisait sommairement connaître les incidents du voyage. Sans parler d'aperçus très personnels sur les pays parcourus, les villes visitées, les rencontres effectuées, elle contenait certaines remarques qui donnaient à réfléchir et ne laissèrent pas de lui causer quelque inquiétude relativement à l'état d'âme de son fils. Richmond, 11 juin, Virginie. Chère et bonne mère, me voici arrivé au but. Non pas celui de cette grande bête de partie, mais celui que m'imposait mon 3e coup de dé. Après Fort Riley du Kansas, après Cheyenne du Wyoming, Richmond de la Virginie. Donc, n'aie aucune appréhension pour l'être que tu chéris le plus au monde et qui te le rend de tout cœur. Il est à son poste, en bonne santé. Par exemple, je voudrais pouvoir en dire autant de cette pauvre Lissy Wagg, que la paille humide des cachots attend dans la grande cité missourienne. Je ne te cache pas, chère mère, bien que je ne doive voir en elle qu'une rivale, mais si charmante, si intéressante. Combien je suis affligée de son malheureux sort. Plus je songe à ce déplorable coup de dé, 7 par 3 et 4, redoublés. Plus j'en éprouve de peine, plus je regrette que le pavillon jaune, si vaillamment tenu jusqu'ici par l'intrépide Jovita Follet pour le compte de son ami, soit hissé sur le mur de cette prison. Et jusqu'à quand le sera-t-il? Je suis donc parti le 7 au matin. La voie ferrée longe le littoral sud du Michigan et laisse apercevoir de jolis points de vue sur le lac. Mais entre nous, je le connais un peu, notre lac, et aussi les pays qu'il limite. D'ailleurs, dans cette partie des États-Unis, comme au Canada, il est permis d'être blasé sur les lacs, leurs eaux bleues qui ne sont pas toujours bleues, leurs eaux dormantes qui ne dorment pas toujours. Nous en avons à revendre, et je me demande pourquoi la France, qui n'est pas riche en propriétés lacustres, ne nous en achète pas un, au choix, comme nous lui avons acheté la Louisiane en 1803. Enfin, j'ai regardé tout de même à droite et à gauche par le trou de ma palette, tandis que cette marmotte de Tommy dormait comme un loir. Sois tranquille, bonne mère, je n'ai point réveillé ton négrillon. Peut-être a-t-il rêvé que je gagnais assez de millions de dollars pour le réduire au plus dur esclavage. Laissons-le à son bonheur. Je refais en partie la route qu'a faite Hawis Kimball lorsqu'il s'est rendu de l'Illinois au New York, de Chicago au Niagara. Mais, arrivé à Cleveland City, de l'Ohio, je l'abandonne pour obliquer vers le sud-est. Du reste, des railroads partout. Un piéton ne saurait où mettre les pieds. Ne me demande pas, chère mère, de te chiffrer mes heures d'arrivée et de départ pendant ce voyage. Cela ne saurait t'intéresser. Je t'indiquerai les quelques localités où notre locomotive a lancé ses tourbillons de vapeur. Ah, pas toutes, par exemple. Il y en a dans ces contrées industrielles autant que de cellules dans une ruche. Seulement les principales. De Cleveland, je suis allé à Warren, un centre important de l'Ohio, si riche en sources d'huile de pétrole qu'un aveugle reconnaîtrait, pourvu qu'il eût un nez, rien qu'à son écœurante atmosphère. C'est à croire que l'air va s'enflammer si l'on égratigne une allumette. Et puis, quel pays ! Sur les plaines, à perte de vue, rien que des échafaudages et des orifices de puits. Et aussi sur les pentes des collines, les bords des creeks. Tout cela, c'est des lampes de 15 à 20 pieds de haut. Il n'y manque qu'une mèche. Vois-tu, chère mère, ce pays ne vaut pas nos poétiques prairies du Far West, ni les sauvages vallées du Wyoming, ni les lointaines perspectives des Rocheuses, ni les profonds horizons des grands lacs et des océans. Les beautés industrielles, c'est bien. Les beautés artistiques, c'est mieux. Les beautés naturelles, rien au-dessus. Entre nous, chère mère, je te l'avouerai, si j'eusse été favorisée au dernier tirage, favorisée par le choix du pays, s'entend, j'aurais voulu t'emmener avec moi. Oui, Madame Réal, au Far West, par exemple. Ce n'est pas qu'il n'y ait de curieux sites dans la chaîne des Alleghanies que j'ai traversée, mais le Montana, le Colorado, la Californie, l'Oregon, foi de peintre, ce n'est pas à comparer. Oui, nous aurions voyagé de compagnie, et si nous avions rencontré l'Issiwag en route, qui sait, le hasard, eh bien tu aurais fait sa connaissance. Il est vrai, elle est maintenant en prison, ou du moins elle va s'y rendre, la pauvre fille. Ah, si au prochain tirage un Tidbury, un Queb, un Hurricane venaient la délivrer. Notre terrible Commodore, le vois-tu, après tant d'épreuves, tombant dans la 52e case, il serait capable d'abandonner son Turk à ses féroces instincts de tigre. À la rigueur, chère mère, une Lissiwag pourrait être envoyée, quoique ce fût très regrettable, à l'hôtellerie, au labyrinthe. Mais le puits, l'horrible puits, la prison, l'horrible prison, c'est bon pour les représentants du sexe fort. Décidément, le destin a oublié d'être galant ce jour-là. Mais ne vaguons ni ne divaguons, et continuons le voyage. Après Warren, en suivant la Wing River, la frontière de l'Ohio franchie, nous sommes entrés en Pennsylvanie. La première ville importante a été Pittsburgh, sur l'Ohio, avec son annexe d'Allegheny, la cité du fer, la cité fumeuse, comme on l'appelle. Malgré les 1000 miles de conduites souterraines par lesquelles se débitent actuellement ces gaz naturels. Ce qui lui fait sale. On a les mains et la figure noircies en quelques minutes, des mains et la figure de négro. Oh, mes sites frais et clairs du Kansas! J'ai mis sur ma fenêtre un peu d'eau dans le fond d'un verre, et le lendemain, j'avais de l'encre. C'est avec ce mélange chimique que je t'écris, chère mère. Je viens de voir dans un journal que le tirage E-Wiccan du 8 expédie notre fulgurant Commodore au Visconzin. Par malheur, au coup suivant, s'il amène le point de 12, même en le doublant, il n'atteindra pas la 52e case où se désole la jeune prisonnière. Enfin, j'ai continué à descendre vers le sud-est. De nombreuses stations ont défilé de chaque côté du Wellwood, des villes, des bourgades, des villages, et à travers ces districts, pas un coin de nature qui soit livré à lui-même. Partout, la main de l'homme et son outillage bruyant. Il est vrai, dans notre Illinois, il en est de même, et le Canada n'y échappe pas. Un jour, les arbres seront en métal, les prairies en feutre, et les grèves en limaille de fer. C'est le progrès. Cependant, j'ai eu quelques bonnes heures en circulant le long des passes des Alleghanies. Une chaîne, pittoresque, capricieuse, sauvage parfois, hérissée de conifères noirâtres, des pentes abruptes, des gorges profondes, des vallées sinueuses, des torrents tumultueux, que les industriels ne font pas travailler encore et qui cascadent en toute liberté. Puis, nous avons effleuré ce petit coin du Maryland qu'arrose le Haut-Potomac pour atteindre Cumberland, plus importante que sa capitale, la modeste Annapolis, qui ne compte guère en regard de l'envahissante et impérieuse Baltimore, où se concentre toute la vie commerciale de l'État. Ici, la campagne est fraîche, le pays étant plus agricole que manufacturier. Il repose sur un seuil de fer et de houille, et en quelques coups de pioche, on a vite crevé la terre végétale. Nous voici au West Virginia. Et sois tranquille, bonne mère, la Virginie n'est pas loin. D'ailleurs, j'y eusse déjà été. Si la question de l'esclavage n'avait pas tellement divisé l'ancien État, qu'il a fallu le couper en deux pendant la guerre de Sécession. Oui, tandis que l'Est s'attachait avec plus de force aux doctrines anti-humaines de l'esclavagisme, Tommy Dor, il n'entend pas. L'Ouest, au contraire, se séparait des confédérés pour se ranger sous le pavillon fédéral. C'est une région accidentée, montueuse, sinon montagneuse, sillonnée dans sa partie occidentale par diverses chaînes des Appalaches, agricoles, minières, avec du fer, de la houille et aussi du sel, de quoi assaisonner la cuisine de toute la Confédération pendant des siècles. Je ne suis point allé à Charleston, capitale de la Virginie orientale. Ne pas confondre avec l'autre grande Charleston de la Caroline du Sud, où s'est rendu mon copain Kimball, ni avec une troisième Charleston, dont je vais te parler. Mais je me suis arrêté un jour à Martinsburg City, la plus importante de l'État du côté de l'Atlantique. Oui, tout un jour, et ne me gronde pas, chère mère, puisque je pouvais être à Richmond en quelques heures de Wellwood. À quel propos ai-je fait halte à Martinsburg? Uniquement pour accomplir un pèlerinage. Et si je n'ai pas emmené Tommy avec moi, c'est qu'il ne peut qu'éprouver de l'horreur pour le héros que j'allais honorer. John Brown, chère mère, John Brown, qui leva le premier le drapeau de l'anti-esclavagisme au début de la guerre de Sécession. Les planteurs virginiens le traquèrent comme une bête fauve. Il n'avait à sa suite qu'une vingtaine d'hommes et voulait s'emparer de l'arsenal d'Harper's Ferry. Ce nom est celui d'un petit bourg, situé sur l'escarpement d'une colline, entre les cours du Potomac et de la Shenandoah. Un site merveilleux, mais plus célèbre encore par les terribles scènes dont il fut le théâtre. C'est là, en 1859, que s'était réfugié l'héroïque défenseur de la sainte et grande cause. La milice vint l'y attaquer. Après des prodiges de courage, blessé grièvement, réduit à l'impuissance, il fut pris, entraîné jusqu'au bourg voisin de Charleston, où il subit le supplice de la pendaison, le 2 décembre 1859. Mort que le gibet n'a pu rendre infamante et dont la glorieuse renommée se perpétuera d'âge en âge. C'est à ce martyr de la liberté, de l'émancipation humaine, que j'ai voulu porter mon hommage de patriote. Enfin, me voici en Virginie, mère, l'État esclavagiste par excellence et qui fut le principal théâtre de la guerre de sécession. Je laisserai au géographe le soin de te dire, si cela peut t'intéresser, qu'il occupe le 33e rang dans l'Union comme superficie, qu'il est divisé en 119 comtés, que malgré l'amputation qu'il a subie du côté de l'Ouest, il est encore un des plus puissants de la République nord-américaine, que le nombre des daims et des opossums y diminue, que les grues, les cailles, les busards vautours fréquentent son territoire, qu'il produit en abondance froment, maïs, seigle, avoine, sarrasin et surtout le coton, ce dont je me félicite puisque je porte des chemises, et surtout le tabac, ce dont je ne me soucie guère puisque je ne fume pas. Quant à Richmond, c'est une belle cité, l'ex-capitale de l'Amérique séparatiste, la clé de la Virginie, que le gouvernement fédéral a fini par mettre dans sa poche. Elle occupe un lit capitonné de 7 collines au bord de la rivière James, et sur la rive opposée, tend la main à Manchester, une ville double, comme tant d'autres aux États-Unis, à l'exemple de certaines étoiles. Je le répète, une cité à voir, avec son Capitole, une sorte de temple grec auquel manque le ciel de l'Attique et les horizons athéniens de l'Acropole, comme au Parthénon d'Édimbourg. Par exemple, trop de fabriques, trop d'usines, à mon goût du moins, et il n'y en a pas moins de 100, rien que pour la préparation du tabac. Un quartier du beau monde, celui de Leonard Haight, où s'élève le monument à la mémoire de Lee, le général des Confédérés, et il mérite cet honneur, sinon pour la cause qu'il a défendue, du moins pour ses qualités personnelles. À présent, chère mère, je te dirai que je n'ai point visité les autres villes de l'État. D'ailleurs, elles se ressemblent un peu, comme toutes les villes américaines. Je ne te parlerai donc ni de Pétersbourg, qui défendait la position des séparatistes au sud, comme Richmond au nord, ni de Yorktown, où 80 ans avant se termina la guerre de l'indépendance par la capitulation de Lord Cornwallis, ni de ces lieux de combat, où Mac Shellan fut moins heureux contre lui que Grant, Sherman et Sheridan. Je passe sous silence Lynchburg, actuellement une cité manufacturière d'une remarquable activité, où se réfugièrent les armées sécessionnistes, et d'où elles durent gagner les Appalaches, ce qui amena la fin de la guerre, le 9 avril 1865. J'oublie volontairement Norfolk, Roanoke, Alexandria, la baie Chesapeake et les nombreuses stations thermales de l'État. Tout ce que je puis mentionner, c'est que les 2/5 de la population virginienne sont des gens de couleur de type magnifique, et que, près de la petite ville de Luray, il existe des cavernes souterraines qui sont peut-être plus belles que les Mammoth Caves du Kentucky. À ce propos, j'y songe. C'est là que la pauvre Lucy Wag aura appris cet injuste arrêt du sort qui l'a fait déporter au Missouri. Et d'autre part, je me demande comment elle pourra payer la triple prime, $3,000. Cela me cause un véritable chagrin. Oui, et tu dois le comprendre. Je viens de lire sur une affiche de Richmond le résultat du tirage du 10 juin. C'est le Minnesota que le point de 5 par 2 et 3 assigne à notre fameux inconnu XKZ. De la 46e, il saute à la 51e case, et le voilà en tête maintenant. Mais qui diable est-il, cet homme-là? Il me paraît singulièrement chanceux, et il n'est pas sûr que mon coup de dé de demain me fasse le devancer. Là-dessus, chère mère, je termine cette longue lettre qui ne peut t'intéresser que parce qu'elle vient de ton fils. Et je t'embrasse de tout cœur en signant de mon nom, lequel n'est plus que celui d'un cheval de course engagé sur le turf hyperbone. Max Real. Chapitre 8. le coup du révérend Hunter. Si quelqu'un paraissait moins indiqué que personne pour la 47e case, État de Pennsylvanie, pour Philadelphie, la principale cité de l'État, la plus importante de l'Union après Chicago et New York, c'était assurément ce Tom Queb, brute de nature et boxeur de son métier. Mais le sort n'en fait jamais d'autre, dit l'adage populaire, et au lieu de Max Real, Dawiste Kimball, de l'Issiwag, si capable d'admirer les magnificences de cette métropole, c'était cet être stupide qui l'y envoyait en compagnie de son entraîneur John Milner. Jamais le défunt membre de l'excentrique club n'aurait prévu cela. On n'y pouvait rien d'ailleurs. Les dés avaient parlé dès les premières heures du 31 mai. Le point de 12 par 6 et 6 s'était lancé sur le fil télégraphique entre Chicago et Cincinnati. Aussi, le deuxième partenaire prit-il ses mesures pour quitter immédiatement l'ancienne Porcopolis. « Oui, Porcopolis !» s'écria en partant et avec l'accent du plus profond mépris John Milner. Comment, le jour où le célèbre Tom Queb l'honorait de sa présence, c'est à ce dégoûtant concours de bestiaux que s'est portée en foule sa population. C'est à ce porc qu'est allée toute l'attention publique, et il n'y a pas eu un seul hurrah pour le champion du Nouveau Monde. Eh bien, empochons le gros sac d'hyperbone et je saurai nous venger. De quelle façon pourrait s'exercer cette vengeance? John Milner eût été sans doute fort embarrassé de s'en expliquer. Au surplus, avant tout, il s'agissait de gagner la partie. C'est pourquoi Tom Queb, se conformant aux indications du télégramme reçu dans la matinée, n'avait qu'à sauter dans le train pour Philadelphie. Ce n'est pas qu'il n'eût 10 fois le temps de faire ce voyage. Les États d'Ohio et de Pennsylvanie sont limitrophes. Dès qu'on a franchi la frontière orientale de l'un, on est sur le territoire de l'autre. Entre les deux métropoles, à peine 600 miles, et il existe plusieurs lignes de voies ferrées à la disposition des voyageurs. 20 heures suffiraient à ce trajet. Voilà de ces bonnes fortunes qui n'arriveraient pas au Commodore Hurrican, et que, d'ailleurs, n'eussent envié ni le jeune peintre, ni le reporter de la Tribune, en quête de longs déplacements. Mais John Milner ne décolérait pas. John Milner entendait ne pas demeurer un jour de plus dans cette cité trop friande des curiosités phénoménales de la race porcine. Oui, quand il mettrait le pied sur la plateforme du train, ce ne serait pas sans avoir dédaigneusement secoué la poussière de ses sandales. Et en effet, personne ne s'était inquiété de la présence de Tom Queb à Cincinnati. Personne n'était venu l'interviewer à son hôtel du faubourg de Covington. Les parieurs n'avaient point afflué comme ceux d'Austin du Texas, et la salle du post-office fut déserte le jour où il s'y présenta pour recevoir la dépêche adressée par maître Tom Brooks. Toutefois, grâce à son point de 12, Tom Queb devançait de 3 cases Max Real et d'une case l'homme masqué lui-même. John Milner, blessé dans son amour-propre, outré de l'attitude de la population cincinnatienne, furieux d'une telle indifférence, quitta l'hôtel à 12h37 et, suivi de Tom Queb, qui venait d'achever son 2e repas, il se rendit à la gare. Le train partit, et après avoir bifurqué à Columbus, il franchit la frontière orientale formée par le cours de l'Ohio. Cet état de Pennsylvanie doit son nom à l'illustre quaker anglais William Penn, qui, vers la fin du XVIIe siècle, devint acquéreur de vastes terrains situés sur les bords du Delaware. Voici dans quelles circonstances. William Penn était créancier de l'Angleterre pour une grosse somme qu'on désirait ne point lui rembourser. Aussi, Charles II lui offrit-il en échange une portion des territoires que le Royaume-Uni possédait en cette partie de l'Amérique. Le Quaker accepta, et quelque temps après, en 1681, il jetait les premiers fondements de Philadelphie. Or, à cette époque, comme le sol était couvert d'immenses forêts, il parut tout naturel de l'appeler Sylvania, en y ajoutant le nom patronymique de William Penn, d'où Pennsylvania. Cette histoire, Awist et Kimball l'eût certainement racontée avec bien d'autres anecdotes concernant le pays, et au vif plaisir des lecteurs de la Tribune, si le sort lui eût attribué 15 jours de villégiature dans la région pennsylvanienne. De quelle plume alerte et souple il aurait décrit ce territoire, assez semblable à celui de l'Ohio, que la chaîne des Allegheny s'accidente pittoresquement du sud-est au nord-ouest en déterminant la ligne de partage des eaux. Il en aurait fait ressortir l'aspect général que justifie encore la seconde moitié de son nom. Vaste bois de chênes, de hêtres, de châtaigniers, de noyers, d'ormes, de frênes, d'érables, marais hérissés de sassafras, pâturages où se nourrit un nombreux bétail, où s'élèvent des chevaux de belle race que la bicyclette finira par disperser un jour, comme ceux de l'Oregon ou du Kansas. Il eut célébré en phrases sonores et spirituelles ces champs spacieux où le mûrier prospère à l'avantage des sériciculteurs, et aussi des vignobles d'un rendement fructueux. Car si la Pennsylvanie est particulièrement froide en hiver, et plus que ne le comporte sa latitude, du moins subit-elle pendant l'été des chaleurs tropicales. Enfin, il eut parlé, avec chiffres à l'appui, de ce sol si riche en houille, en anthracite, en minerais de fer, en sources de pétrole et de gaz naturel. Et si généreux, si inépuisable, qu'il donne un nombre de tonnes d'acier et de fer supérieur à la production du reste des États-Unis. Peut-être même l'enthousiaste reporter aurait-il raconté ses chasses à l'élan wolvérène, au daim, au chat sauvage, au loup, au renard et à l'ours brun, qui fréquente les vastes forêts de l'État, puisqu'il était grand amateur des prouesses cinégétiques. Inutile d'ajouter, n'est-il pas vrai, que les principales cités pennsylvaniennes auraient reçu la visite d'Awist et Kimball, qu'il aurait été y chercher, ce dont il ne faisait aucunement fi, le bruyant accueil, les applaudissements réservés à l'un des favoris de la course excentrique. On l'aurait vu aux deux villes groupées d'Allegheny et de Pittsburgh, où son concurrent Max Real venait de passer pour se rendre à Richmond. Il aurait affecté une partie de son temps à cette capitale de l'État, Harrisburg, dont les 4 ponts sont jetés d'une rive à l'autre de la Susquehanna, sortie du flanc des Blue Mountains, et que les usines métallurgiques bordent sur une étendue de plusieurs milles. Assurément, il se fut transporté au célèbre cimetière de Gettysburg, théâtre des luttes de la guerre de sécession, où tombèrent, en 1863, les soldats de l'armée confédérée, le jour même où le Mississippi s'ouvrait au général Grant par la reddition de la forteresse de Vicksburg. C'eût été d'ailleurs, en compagnie des nombreux pèlerins du sud comme du nord, qui viennent annuellement honorer les morts couchés sous ces rangées de pierres dont est semée la sanglante nécropole. Bref, ce territoire possédait encore bien d'autres villes très prospères. Scroton, Reading, Erie, sur le lac de ce nom, Lancaster, Altona, Wilkes-Barre, dont la population dépasse 30 000 âmes. Enfin, le chroniqueur en chef du grand journal chicagois eût-il négligé de se rendre près de la vallée du Leyte, à ce mont Ours, haut de Santoise, que le premier railway desservit dès l'année 1827, et voisin d'une mine d'anthracite qui brûle depuis un demi-siècle. Il faut dire également que, si dédaigneux qu'il fût des régions industrielles, Max Real eut rencontré sur les territoires pennsylvaniens plus d'un beau site qui aurait certainement tenté son pinceau. Des paysages variés et pittoresques au versant des Alleghanies et dans les vallées du massif des Appalaches. Mais ni le premier ni le 4e partenaire n'avait été envoyé à la 47e case. Et ce sera un éternel regret pour la postérité. on le pense bien. Rien à attendre de Tom Queb, ou pour mieux dire, de John Milner. Son héros était à destination de Philadelphie. Il irait à Philadelphie, nulle part ailleurs. Et cette fois, l'attention publique ne se détournerait pas de lui. Il y reviendrait l'homme du jour. Au besoin, John Milner saurait le remettre en lumière et forcer la grande ville à s'occuper d'un personnage qui tenait une place si considérable dans le monde pugiliste du Nord-Amérique. Ce fut vers 10 heures du soir, le 31 mai, que Tom Queb fit son entrée dans « la ville de l'amour fraternel », où son entraîneur et lui passèrent incognito leur première nuit. Le lendemain, John Milner voulut voir d'où venait le vent. Soufflait-il du bon côté? Et avait-il apporté le nom de l'illustre boxeur jusqu'aux rives du Delaware? Selon son habitude, John Milner avait laissé Tom Queb à l'hôtel, après avoir pris les mesures nécessaires au sujet de ses 2 déjeuners du matin. Cette fois encore, comme à Cincinnati, ils n'avaient point inscrit leur nom et qualité sur le livre des voyageurs. Une promenade à travers la cité lui paraissait indiquée. Puisque le résultat du dernier tirage y devait être connu depuis la veille, il saurait si la population se préoccupait de l'arrivée de Tom Queb. Lorsqu'il s'agit de parcourir une ville de 3e ou 4e ordre, d'étendue restreinte, cela peut se faire en quelques heures. Mais il n'en va pas ainsi pour une agglomération urbaine, qui, en y comprenant ses annexes de Manenax et de Germanstone, de Camden et de Gloucester, ne compte pas moins de 200 000 maisons et de 1 100 000 âmes. Dans sa disposition oblique du nord-est au sud-ouest, en suivant le cours du Delaware, Philadelphie se développe sur une longueur de 6 lieues, et sa superficie est bien près d'égaler celle de Londres. Cela tient surtout à ce que, en très grand nombre, les Philadelphiens habitent chacun sa maison, que les énormes bâtisses avec des centaines de locataires, comme à Chicago ou à New York, y sont rares. C'est la cité du « home » par excellence. En réalité, cette métropole est immense, superbe aussi, ouverte, aérée, régulièrement construite avec certaines rues larges d'une centaine de pieds. Elle possède des maisons sur les façades desquelles alternent les briques et le marbre, de frais ombrages conservés depuis l'époque sylvanienne du territoire, des jardins luxueusement entretenus, des squares, des parcs, et le plus vaste de tous ceux des États-Unis, Fairmount Park, un morceau de campagne de 1200 hectares qui borde le Schlieken et dont les ravins ont gardé leur sauvage aspect. Dans tous les cas, pendant cette première journée, John Milner ne put visiter que la partie de la ville située sur la rive droite du Delaware, et il remonta vers le quartier de l'ouest en suivant le Schlieken, un affluent du fleuve, qui coule du nord-ouest au sud-est. De l'autre côté du Delaware s'étend New Jersey, l'un des petits États de l'Union, et auquel appartiennent ses annexes de Camden et de Gloucester, qui, faute de pont, ne communique que par les ferryboats avec la métropole. Ce ne fut donc pas ce jour-là que John Milner traversa le centre de la cité, d'où rayonnent les principales artères, autour de l'hôtel de ville, vaste édifice de marbre blanc, bâti à coups de millions, et dont la tour, lorsqu'elle sera achevée, portera à près de 600 pieds dans les airs l'énorme statue de William Penn. Au surplus, si pendant son séjour à Philadelphie, John Milner ne pouvait faire autrement que d'apercevoir les monuments de la ville, jamais la pensée de les visiter ne devait lui venir. Ni l'arsenal et les chantiers de construction situés dans la League Island, une île du Delaware, ni la douane construite en marbre alléghanien, ni l'hôtel des Monnaies où se frappent encore toutes les pièces de la République fédérale, ni l'hôpital de la Marine, ni le musée historique installé dans Independence Hall, où fut signée la déclaration de 1776, ni le grand collège d'architecture corinthienne où sont élevés des centaines d'orphelins, ni les bâtiments universitaires, ni ceux de l'Académie des sciences naturelles et leurs précieuses collections, ni l'observatoire, ni le jardin botanique, l'un des plus beaux et des plus riches de l'Union, ni enfin aucune des 260 églises, aucun des 6 temples quakériens de cette ancienne et célèbre capitale des États-Unis d'Amérique. Après tout, John Milner n'était pas venu pour voir Philadelphie. On n'attendait pas de lui, comme de Max Real ou de Hawish T. Kimball, des tableaux ou des articles. Il avait pour mission de conduire Tom Queb là où le dernier tirage l'obligeait à se rendre. Mais il entendait bien faire de ce voyage une réclame au profit du dit Tom Queb, en cas que, faute de gagner les 60 millions de dollars, il serait obligé de continuer son métier. Du reste, les amateurs de ce genre de sport ne devaient pas manquer à Philadelphie, où abondent les ouvriers par centaines de mille dans les mines métallurgiques, dans les ateliers de construction de machines, dans les raffineries, dans les fabriques de produits chimiques, dans les tissages de tapis et d'étoffes. Plus de 6 000 manufactures de toutes sortes. Et aussi les ouvriers du port, où se font les expéditions de charbon, de pétrole, de grains, d'objets ouvrés, et dont le mouvement commercial n'est dépassé que par celui de New York. Oui, Tom Queb ne pouvait qu'être estimé à sa juste valeur en ce monde, où les qualités physiques priment les qualités intellectuelles. Et d'ailleurs, même en d'autres classes, dites supérieures, combien de gentlemen se rencontrent qui savent apprécier un coup de poing appliqué en pleine figure et la démantibulation d'une mâchoire suivant les règles de l'art. À tout prendre, ce que John Milner constata, non sans une réelle satisfaction, c'est que le marché de Market Street de Philadelphie, qui passe pour être le plus grand des 5 parties du monde, n'était pas alors affecté à quelque concours régional de bestiaux. Donc, de ce chef, son compagnon n'aurait aucun rival à redouter, comme dans cet abominable Spring Grove de Cincinnati. Et le pavillon indigo ne s'abaisserait pas, cette fois, devant la majesté d'un port phénoménal. D'ailleurs, John Milner fut, dès le début, rassuré à ce sujet. Les journaux de Philadelphie avaient annoncé à grand fracas d'articles que l'État de Pennsylvanie devait attendre la prochaine arrivée du deuxième partenaire dans les 15 jours compris entre le 31 mai et le 14 juin. Les agences de Paris s'en étaient mêlées. Les courtiers avaient chauffé le monde des joueurs en faveur de Tom Queb, établissant qu'il avait l'avance sur tous ses concurrents, calculant qu'il lui suffisait de 2 coups heureux pour atteindre le but, etc., etc. Et lorsque le lendemain Tom Queb, à travers les rues les plus fréquentées de la ville, fut promené par son entraîneur, combien il aurait eu lieu d'être satisfait s'il avait su lire. Partout des affiches gigantesques, dans le genre, il est vrai, de celles qui concernaient le port de Cincinnati, avec le nom du deuxième partenaire en lettres d'un pied de haut et des points d'exclamation l'escortant comme une garde d'honneur, sans parler des prospectus distribués par les vociférants courtiers des agences. « Tom Queb, Tom Queb, Tom Queb, l'illustre Tom Queb, champion du Nouveau Monde, le grand favori du match Hyperbone, Tom Queb qui a battu Fitzsimmons et Corbett, Tom Queb qui bat Real, Kimball, Tilbury, Lisiwag, Audrey Wickham et XKZ. » Tom Queb qui tient la tête. Tom Queb qui n'est plus qu'à 16 cases du but. Tom Queb qui va planter le pavillon indigo sur les hauteurs de l'Illinois. Tom Queb est dans nos murs. Hourra, hourra, hourra pour Tom Queb. Il va de soi que d'autres agences, qui ne faisaient pas du deuxième partenaire leur favori, ripostaient par d'autres affiches non moins fourmillantes de points d'exclamation, opposant surtout à ses couleurs celles de Max Real et de Aristé Kimball. Hélas, les autres partenaires, Lisiwag, le Commodore et Herman Tilbury, étaient déjà considérés comme hors de concours. On comprendra donc quel sentiment de fierté dut éprouver John Milner lorsqu'il exhiba son triomphant sujet à travers les rues de Philadelphie. Les principales places, les squares, à Fairmount Park et aussi au marché de Market Street. Quelle revanche des déboires de Cincinnati! Quel gage de succès final! Cependant, le 7, au milieu de cette joie délirante, John Milner eut un serrement de cœur, provoqué par l'incident très inattendu que voici. Ce fut le coup d'épingle qui risque de dégonfler le ballon prêt à s'enlever dans les airs. Une affiche, non moins colossale, venait d'être apposée par un rival, sinon un concurrent du match Hyperbone. Kavanaugh contre Quebb. Qui était ce Kavanaugh? Oh, on le connaissait bien dans la métropole. C'était un boxeur de grand renom qui, 3 mois avant, avait été vaincu dans une lutte mémorable contre Tom Quebb en personne, sans avoir pu jusqu'ici obtenir sa revanche, malgré les réclamations les plus instantes. Aussi, puisque Tom Quebb se trouvait à Philadelphie, ces mots s'étalaient-ils sur l'affiche à la suite du nom de Kavanaugh. Défi pour le championnat, défi, défi. On l'avouera. Tom Quebb avait autre chose à faire que de répondre à cette provocation. C'était d'attendre, tranquillement, dans un confortable farniente, la date du prochain tirage. Mais Kavanaugh, ou plutôt ceux qui le lançaient dans les jambes du champion du Nouveau Monde, ne l'entendaient pas de cette façon. Qui sait même si ce n'était pas le coup de quelque agence rivale qui méditait d'arrêter en route le plus avancé des partenaires. John Milner aurait dû se contenter de hausser les épaules. Les partisans de Tom Quebb intervinrent même pour lui dire de dédaigner ses défis un peu trop intéressés. Mais, d'une part, John Milner connaissait l'indiscutable supériorité de son sujet sur Kavanaugh en matière de boxe, et de l'autre, il se dit cette réflexion. Si, en fin de compte, Tom Quebb ne gagnait pas la partie, s'il n'était pas enrichi par les millions du testament, s'il lui fallait continuer à boxer en public, ne serait-il pas perdu de réputation pour avoir refusé cette revanche demandée dans des circonstances si solennelles? Bref, de tout cela, après de nouvelles affiches plus provocantes encore et qui n'allaient à rien moins qu'à entacher l'honneur du champion du Nouveau Monde, on put lire, dès le lendemain sur tous les murs de Philadelphie, « Réponse au défi, Quebb contre Kavanaugh. » Qu'on juge de l'effet. Quoi? Tom Quebb acceptait la lutte? Tom Quebb en tête des 7 allait risquer sa situation dans une revanche de pugilat? Oubliait-il donc en quelle partie il était engagé? Et nombre de parieurs à sa suite? Eh bien oui. D'ailleurs, se disait avec assez de raison John Milner, ce n'était pas une mâchoire fracassée ou un œil exorbité qui empêcherait Tom Quebb de se remettre en route et de faire bonne figure dans le match Hyperbone. Donc la revanche aurait lieu, et mieux valait que ce fût plus tôt que plus tard. Or, il arriva ceci. C'est que, comme les combats de ce genre sont interdits, même en Amérique, la police philadelphienne fit défense aux 2 héros de se rencontrer sous peine de prison et d'amende. Il est vrai, d'être détenu dans ce penitentiary western où les prisonniers sont astreints à apprendre un instrument et à en jouer toute la journée, et quel charivarique concert dans lequel le lamentable accordéon domine, cela ne constitue pas une peine bien sévère. Mais la détention, c'était l'impossibilité de repartir au jour indiqué. C'était s'exposer à ces retards dont Herman Tidbury avait failli être victime au Maine. Restait peut-être un moyen de procéder sans avoir à craindre l'intervention du shérif. En effet, ne suffirait-il pas de se transporter dans une petite localité voisine, de tenir secret le lieu et l'heure de la rencontre, de vider enfin hors de Philadelphie cette grande question de championnat? C'est ce qui allait être fait. Seuls, les témoins des deux boxeurs et quelques amateurs de haute respectabilité furent mis au courant des dispositions prises. Les choses se passeraient pour ainsi dire entre professionnels, et lorsqu'on serait de retour, les autorités métropolitaines n'auraient point à s'occuper de cette affaire. Ce n'en était pas moins fort imprudent, on en conviendra. Que voulez-vous, quand les amours propres sont en jeu? Les pourparlers achevés, comme les provocations par affiche ne se renouvelèrent pas, comme le bruit se répandit même que la revanche était remise après l'issue du match, on put croire que le combat n'aurait pas lieu. Et pourtant, le 9, vers 8 heures du matin, dans la petite bourgade d'Arundel, à une trentaine de milles de Philadelphie, un certain nombre de gentlemen se trouvèrent réunis à l'intérieur d'une salle, secrètement louée pour cette cérémonie. Des photographes et des cinématographistes les accompagnaient, afin de conserver à la postérité toutes les phases d'une si palpitante lutte. Parmi les personnages figurait Tom Queb, bien en forme, prêt à détendre ses formidables bras dans la direction de son adversaire à hauteur de tête. Cavanaugh, moins haut de taille, mais aussi large d'épaules et d'une vigueur exceptionnelle. Deux lutteurs capables d'aller jusqu'à 20 ou 30 rounds, c'est-à-dire 20 ou 30 reprises de boxe. Le premier était assisté de John Milner, le second de son entraîneur particulier. Amateurs et professionnels les entouraient, avides de juger les passes et contrepasses de ces deux machines de la force de 4 points. Mais à peine les bras sont-ils en position qu'on voit apparaître le shérif d'Arundel, Vincent Bouac, accompagné du clergyman Hugh Hunter, ministre méthodiste de la paroisse, grand vendeur de bibles, à la fois antiseptique et antiseptique. Prévenus par une indiscrétion, tous deux accouraient sur le champ clos pour empêcher cette rencontre immorale et dégradante, l'un au nom des lois pennsylvaniennes, l'autre au nom des lois divines. On ne s'étonnera pas s'ils furent fort mal reçus, et par les deux champions, et par leurs témoins, et par les spectateurs, très friands de ce genre de sport sur lequel ils avaient même engagé des paris considérables. Le shérif et le clergyman voulurent parler. On refusa de les entendre. Ils voulurent séparer les combattants. On leur résista. Or, à deux, que pouvaient-ils contre des gens râblés et musclés, assez vigoureux, semblait-il, pour les envoyer d'un revers de main rouler à 20 pieds de là? Sans doute, les deux intervenants avaient pour eux leur caractère sacré. Ils représentaient les autorités terrestres et célestes, mais il leur manquait le concours de la police, qui lui vient en aide d'habitude. Et au moment où Tom Queb et Cavanaugh allaient se mettre sur l'offensive et la défensive, « Arrêtez !» s'écria Vincent Bouac. « Ou prenez garde !» s'écria le révérend Hugh Hunter. Rien n'y fit, et plusieurs coups de poing furent lancés, qui se perdirent dans le vide, grâce à une opportune retraite des deux adversaires. Alors eut lieu une scène digne de provoquer la surprise, puis l'admiration de ceux qui en furent les témoins. Ni le shérif, ni le clergyman n'étaient de haute taille, non plus que de large encolure, des hommes maigres et moyens. Toutefois, ce qu'ils n'avaient pas en vigueur, ils l'avaient, on va le voir, en souplesse, adresse et agilité. En un instant, Vincent Bouac et Hugh Hunter furent sur les deux boxeurs. John Milner, ayant essayé de retenir le clergyman au passage, en reçut une maîtresse gifle qui l'étendit sur le sol où il resta à demi pâmé. Une seconde après, Cavanaugh était gratifié d'un coup de poing que le shérif lui administra sur l'œil gauche, tandis que le révérend écrasait l'œil droit de Tom Queb. Les deux professionnels voulurent assommer les assaillants, mais ceux-ci, évitant leur attaque, sautant, cabriolant avec une prestesse de singe, esquivèrent à merveille les plus violentes ripostes. Et, à partir de ce moment, ce qui ne saurait surprendre puisque cela se passait au milieu d'un groupe de connaisseurs, c'est à Vincent Bouac et à Hugh Hunter qu'allèrent les applaudissements, les hurrahs, les hips. Bref, le méthodiste se montra si particulièrement méthodique dans sa manière d'opérer selon toutes les règles de l'art qu'après avoir fait de Tom Queb un borgne, il en fit un aveugle en lui plaquant l'œil gauche au fond de l'orbite. Enfin, quelques policemen apparaissant, le mieux était de décamper au plus vite. Et c'est ce qui fut fait. Ainsi se termina ce mémorable combat, à l'avantage et aussi à l'honneur d'un shérif et d'un clergyman, lesquels avaient combattu pour la loi et pour la religion. Quant à John Milner, une joue gonflée, un œil frit, il ramena Tom Queb à Philadelphie, où tous deux, confinés dans une chambre d'hôtel, cachèrent leur honte, en attendant l'arrivée de la prochaine dépêche.